les jardinières.
Ce week-end, c'est la fête dans le Jura, c'est la Saint-Martin, c'est le cochon qui est à l'honneur. Mais ici, et jusqu'à 8h, ce sont les végétaux qui sont sous le feu des projecteurs. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Brian.
Bonjour Mike.
Elle ne va pas nous parler de recettes typiques de la Saint-Martin, elle va nous parler de fleurs. Ce matin, nous sommes en compagnie de Katiou Racine. Bonjour Katiou.
Bonjour.
Katiou Racine, pardon, vous êtes jardinière et guide de randonnée nature à Mervelier. On peut d'ailleurs, sauf erreur, vous suivre vos aventures sur les réseaux sociaux sous le nom de Rando avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
Et installez-vous confortablement, les jardinières vous accompagnent jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Et le brouillard plane encore et toujours dans les régions de plaine et parfois même dans les vallons. Pour les autres en hauteur, c'est du soleil à profusion. Katiou, que peuvent faire les jardiniers et jardinières en extérieur? Est-ce que les tâches sont différentes pour ceux qui profitent du soleil et évidemment pour les autres qui subissent de la grisaille?
Alors, les tâches sont exactement les mêmes parce que tant qu'il n'y a pas de précipitation, ça n'entrave pas beaucoup aux travaux qu'il faudrait faire ces temps dans le jardin. Y a encore plein de récoltes à faire parce que malgré tout, on n'a pas eu encore de gel du tout. Et puis, le jardin, il continue de produire. Donc, il y a plein de choses à récolter. Il y a les poros, il y a les choux de Bruxelles. Enfin, voilà, toutes ces petites choses qui sont plutôt des légumes d'automne, comme on appelle ça. Ensuite, on peut déjà un petit peu préparer les carrés du potager qui sont vides. On peut un petit peu les agrémenter avec du compost, un petit peu les travailler, casser toujours cette espèce de croûte qu'il y a sur la surface. Et puis, ce qui est important de faire, parce que je crois qu'il y a du gel qui est annoncé pour dans les 10 jours à venir, c'est de rentrer les plantes qui sont sensibles au gel ou alors de les protéger avec des films plastiques avec des bulles. Des branches de sapin, enfin il y a plein de choses à faire, attacher par exemple les pampas, ce sont ces grandes tiges avec un plumeau au bout qu'on voit des fois dans les jardins, il faut commencer de les protéger, de les attacher au cas où il viendrait des précipitations de neige pour pas qu'ils s'effondrent, enfin voilà, il y a plein de choses à préparer pour affronter l'hiver rigoureux jurassien.
Merci Katiou. En seconde partie d'émission, vous allez répondre aux questions de nos auditeurs, des questions que vous pouvez nous faire parvenir en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières, avec la possibilité de joindre une photo. Ou alors par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et votre nom et vous nous l'envoyez au 939. Ou alors par téléphone, vous composez le 0901 70 20 20 et vous poserez votre question directement à Katiou.
Dans la suite des jardinières, Katiou, vous allez nous parler des chrysanthèmes, des fleurs parfaites pour donner encore plus de couleurs à l'automne.
7h, 8h, les jardinières.
Et le chrysanthème est une magnifique plante pour fleurir jardin et terrasse. C'est la star de l'automne et en particulier star de la Toussaint. Si vous aussi vous voulez profiter de ses couleurs l'année prochaine, écoutez les conseils de Katiou. Alors parlons-en justement pour les personnes qui ne connaissent pas les chrysanthèmes. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette plante? Comment est-ce qu'elle se présente par exemple?
Alors, c'est une très, très jolie plante qui, malheureusement, chez nous, est vraiment associée à la mort parce qu'on la trouve uniquement sur les cimetières, quasiment. Quand il y a le 1er novembre qui arrive, ça pullule de partout. On voit des chrysanthèmes tout partout. Et puis, malheureusement, on ne la trouve pas beaucoup ailleurs parce que c'est une plante, en fait, je trouve, qui symbolise plutôt l'arrivée de l'automne. Et puis, pour la petite histoire, le chrysanthème, ça vient du mot grec chrysos, qui veut dire or, et anthémis, qui veut dire fleur. Donc, en fait, on l'appelle, dans les autres pays, on l'appelle la fleur d'or. Et puis, c'est une plante qui a été cultivée en Asie depuis de nombreuses années, à peu près 2000 ans. Et puis, ça fait, chez nous, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est arrivée. Mais malheureusement, elle n'est pas assez représentée, je trouve. Et puis, c'est assez rigolo parce que quand on dit le chrysanthème, on ne va pas dire la chrysanthème. Mais quand on dit un chrysanthème ou une chrysanthème, on ne sait pas trop ce qu'on doit dire, en fait. Puis en fait, chrysanthème, c'est un mot masculin, ça c'est bien de le savoir. Et puis, pour un petit peu se la situer dans l'œil, c'est une plante qui a des petites fleurs un peu comme une marguerite, qui peut être de différentes grandeurs, ça peut aller de 10 cm à 50, 60, 70 cm. Et puis, on va la trouver sous plein de déclinaisons de couleurs. Ça part du blanc au jaune, rose, violet, du rouge. Il y a vraiment plein de couleurs. C'est très joli. Et puis, en plus, c'est assez facile de la cultiver et on peut lui donner la forme qu'on veut en la taillant un petit peu. Donc, c'est vraiment une plante qui est intéressante. Et puis, il faudrait vraiment penser à la mettre autour de la maison et pas que autour à l'intérieur des murs du cimetière.
Alors, Katiou, il existe deux familles de chrysanthèmes, les chrysanthèmes annuelles et les chrysanthèmes vivaces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ?
Alors, les plantes annuelles et les plantes vivaces, annuelles, ça veut dire qu'ils ne fleurissent qu'une seule fois dans l'année et puis qui périssent à la fin de la saison. Et vivaces, ce sont des plantes qui reviennent chaque année, donc qui vont passer une saison complète, qui vont s'éteindre entre guillemets en hiver et puis qui vont repousser toutes seules au printemps. Donc là, il y a vraiment dans les chrysanthèmes ces deux sortes de plantes. On les trouve assez souvent chez nous, plutôt sous forme annuelle. Mais maintenant, ça commence un petit peu dans les jardineries. Là, il faut plutôt aller dans les jardineries spécialisées que dans les commerces, de les trouver sous forme vivace. Et puis, c'est une plante qui est vraiment intéressante d'avoir autour de la maison, dans les bordures. On peut mettre ça dans des caissettes. On peut vraiment faire un mix de couleurs. Et puis, en plus, l'automne, c'est joli parce que et les couleurs s'éteignent un peu, à part dans les forêts, mais autour de la maison, c'est vrai qu'il y a les haies qui commencent de perdre leurs feuilles. Nos plantes d'été, comme les géraniums et toutes ces autres plantes-là, arrivent au bout. Et puis, on a la chrysanthème qui est royale là au milieu. Et puis c'est vraiment sympa d'avoir ça autour de la maison.
Et outre le fait que ce soit joli autour de la maison, ces chrysanthèmes ont l'avantage de fleurir tardivement jusqu'au mois de novembre. Est-ce que c'est, par exemple, une bonne idée pour aider nos amis les insectes d'en avoir dans son jardin ou sur sa terrasse ?
C'est une très bonne idée, tout simplement parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les abeilles volaient encore il y a quelques dizaines de jours. Moi, je les ai vues dans les champs, on voit encore des tournesols et puis les abeilles travaillent encore. Et puis, en fait, elles en sont friandes parce que le chrysanthème est vraiment riche en pollen et puis en nectar. Et puis, en plus, elles sont... Il y a beaucoup de cultivars de chrysanthèmes, donc beaucoup de sortes, pour parler un peu en français, qui ont des feuilles simples, ça veut dire qu'elles ont vraiment au milieu cet espace où l'abeille peut aller se poser. Donc les abeilles sont très friandes en fin de saison de ce genre de fleurs parce qu'elles ne doivent pas trop prendre d'énergie pour aller chercher leur nourriture. Donc elles cherchent plutôt ces fleurs-là, qui sont présentes vraiment en grande quantité chez les chrysanthèmes.
Et puis alors, on l'a dit, les chrysanthèmes fleurissent maintenant. Quel est le meilleur moment pour les planter ?
Pour les planter, c'est au printemps et début d'été. Chez nous, le printemps, attention, il faut un peu le décaler chez nous parce que ce n'est pas vraiment le 21 mars pour les plantes. Ça serait plutôt fin avril, comme ça. Donc, on va les planter fin avril. Et puis, il faudra vraiment les planter dans des sols très riches. Donc, il faut plutôt attendre. Moi, j'aime bien parler des saints de glace. Donc là, on parle vraiment du chrysanthème qu'on va acheter et puis qu'on va planter dans son jardin. On ne parle pas de semis ou de plantation, de petites plantations. C'est bien des fois d'attendre aussi vraiment ces saints de glace pour éviter les gelées qui pourraient être encore tardives chez nous.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, Katiou Racine nous parle de la star de l'automne, le chrysanthème. Vous nous avez expliqué que les chrysanthèmes se plantent au printemps. Katiou, comment est-ce qu'on peut les planter ou les semer, ces chrysanthèmes, au juste ?
Alors, on peut soit les planter ou soit les semer. C'est deux choses bien différentes pour les jardiniers débutants. Quand on parle de semer, donc ça va dire qu'on va aller acquérir des graines ou qu'on a des graines qu'on a récupérées de l'année d'avant ou d'une connaissance et qu'on va semer, donc vraiment mettre la graine et faire pousser une petite plante. Et si on plante, ça veut dire qu'on va acheter une toute petite plante ou un petit planton et qu'on va le mettre en terre. Donc là, on va parler maintenant de semis. Les semis, c'est bien sûr beaucoup plus économique parce que dans un sachet de graines, il y aura peut-être, 20, 30 ou 40 graines. Donc, on pourra avoir plusieurs plantes. Donc, c'est intéressant de faire du semis. À savoir que la plante, lorsqu'on la sème, elle ne fleurit que la deuxième année. Donc, si vraiment on veut des fleurs, il faut y penser bien avant parce qu'on n'aura pas des fleurs la même année. Et puis, pour le semis, on va faire ça dès février, à l'intérieur de la maison, bien sûr, un endroit qui est quand même pas trop, trop chaud, ou sous serre à l'extérieur. Pour les gens qui ont des petites serres, c'est pas mal de chauffer un peu ça et puis de mettre ça sous serre. Et puis, on va prendre nos graines, on va soit mettre ça dans des plateaux de culture où on a de la terre ou dans des petits godets. On va planter une graine dans chaque godet, mettre ces petits godets sous une petite cloche. On peut faire ça soi-même ou alors on peut acheter des mini-serres dans le commerce qui sont pas très chers. C'est du plastique, ça rend bien service. Et puis, on va bien arroser, bien humidifier et puis on va attendre tranquillement que ces petites graines lèvent. Donc, ça veut dire que la plante va sortir et puis il va y avoir une petite plantule. Alors, si on fait dans chaque pot individuel, on peut les laisser comme ça. Si on les sème dans un plateau de culture qui sera un plus grand plateau, où il y a beaucoup de graines, il faudra un peu éclaircir. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser toutes ces petites plantes toutes groupées parce qu'en fait, elles ne vont pas pouvoir pousser. Elles vont se prendre et la lumière et l'énergie. Enfin voilà, il faut vraiment faire de la place, faire de l'éclaircissement. Hein, ça parle de soi-même. Et puis ensuite, quand les plantes auront poussé à peu près à 15-20 cm dans les pots individuels, on va pouvoir les pincer. Ça veut dire que pincer, ça veut dire qu'on va leur couper la tête. Je vais l'expliquer un petit peu plus loin ce que c'est, mais c'est un geste qu'on va faire pour fortifier la plante, pour la faire ramifier, puis éviter que ça soit vraiment une toute longue tige, toute fine, et puis qui penche à gauche, à droite, et puis qui finalement va se casser. Donc voilà pour le semis. Et puis pour la plantation, et ben c'est des petites plantes qu'on achète en planton dans les grandes surfaces ou chez les jardiniers. Et puis là, on va faire un trou dans la terre et puis simplement les planter. Donc là, c'est une action qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide.
Les jardinières.
Et ce matin, on parle jardin jusqu'à 8h. Et nous sommes en compagnie de Cathiou Racine, jardinière et guide de randonnée nature dans le Jura, à suivre notamment sur les réseaux sociaux sous le nom de Rando avec soi-même.
Et pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler au 0900 à 70 20 20 et parler en direct avec Cathiou. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question au 939. Un formulaire est d'ailleurs aussi à votre disposition avec la possibilité de joindre une photo à votre question. Ça se passe sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Et si vous êtes avec nous depuis ce matin, on parle de chrysanthème. On va revenir sur ce sujet. Cathiou, vous nous avez expliqué tout à l'heure que c'était la fleur d'or. Vous voyez, j'ai pris des notes hein, pendant votre petit exposé. Et Cathiou, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible de multiplier ces chrysanthèmes? Est-ce qu'on peut les dupliquer? Comment ça se passe en fait concrètement?
Alors en plus, c'est très facile, donc vous voyez qu'elle n'a que des avantages, cette jeune dame. On peut faire des boutures. Les boutures, c'est l'action de prélever un segment de la plante et puis de le replanter pour le faire s'enraciner. Et puis on va faire ça entre mars et juillet, donc on va vraiment prendre un bout de tige, si on veut parler un peu plus couramment. Il faudra qu'il y ait sur ce bout de tige à peu près 4 à 5 niveaux de feuilles, comme ça, ça nous donne une idée de la longueur qu'il faudra couper. Et puis, on va enlever deux rangées de feuilles. C'est-à-dire que sur le bas de cette tige qu'on aura coupée, on va enlever deux rangées de feuilles pour que la tige soit bien nue. Et puis, on va replanter cette tige, donc bien sûr, jusqu'en dessous des feuilles qu'on a laissées. Donc, ça va faire, je ne sais pas, peut-être 10 cm qu'on va mettre en terre, dans un substrat qui est vraiment préparé, avec un bon substrat bien riche. On l'a abordé avant, les chrysanthèmes aiment beaucoup vraiment des terres qui sont riches. Donc, on ne pourra pas planter, prendre la terre du jardin potager qui est toute sèche et puis qui n'est pas du tout friable, et puis mettre ça là-dedans, puis se dire, ouais, ben, ça va faire une super plante. Ça, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment prendre du terreau, mettre un petit peu de sable, un petit peu de compost, bien mélanger ça, préparer des petits godets et puis mettre cette tige dans ce godet, bien l'arroser. Et puis, on va mettre ça à une place qui est assez chaude et lumineuse, par exemple un rebord de fenêtre du côté de l'est où le soleil sera présent que le matin. Et puis, on laisse venir tranquillement, puis on va voir que tout d'un coup, il va faire des petites feuilles. Et puis là, on se rendra compte que notre plante a pris. Je l'avais déjà dit une fois lors des précédentes émissions, on ne va jamais tirer sur des boutures pour voir si elle s'est enracinée, parce que parfois, il y a de toutes petites racines qui sont en train de se faire. Et puis le fait de tirer dessus, en fait, on va les casser, puis on va abîmer la bouture qui va mourir. Donc on laisse vraiment l'œil se fier à ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, quand on voit que ce petit rameau évolue, eh ben c'est bon, c'est prêt.
Merci Cathiou. Puis est-ce que ces chrysanthèmes, ils se plaisent aussi bien en pot qu'en pleine terre?
On peut les mettre absolument tout partout. On peut même en avoir sur un rebord de fenêtre, dans des petits bacs. Ben là, on choisira aussi les plantes, la grandeur des plantes en fonction de la place qu'on a. On peut mettre ça dans un pot seul sur une boîte aux lettres. On peut mettre ça dans des bordures. On peut mettre ça au milieu du potager, parce qu'il faut savoir quand même que le chrysanthème, il a de la pyréthrine. Il dégage de la pyréthrine, et la pyréthrine, c'est un puissant insecticide. Donc ça va éloigner pas mal de bestioles autour du jardin potager et dans le jardin potager. Ça éloigne également les moustiques, donc on peut mettre ça sur un bord de fenêtre à coucher dans un bac. Il faut juste faire attention de ne pas les exposer trop au soleil quand même, ça sera plutôt à la mi-ombre, un peu à l'abri du vent. Et puis on peut la mettre vraiment où bon nous semble.
Et pour moi, Cathieu, mission toujours compliquée, c'est d'arroser ces fleurs. Est-ce que les chrysanthèmes, c'est gourmand en eau? Comment on les arrose?
C'est pas vraiment gourmand en eau. Ça, il faut plutôt faire attention. Ça sera plutôt un arrosage modéré. Et puis, on va vraiment. Bon, si on met dans des caissettes ou dans des pots ou dans des bacs, donc on parle vraiment de pas de pleine terre, vraiment dans des pots, il faudra faire attention de bien drainer le fond du pot. Pourquoi? Parce qu'on a tendance souvent, pour toutes les plantes, à arroser beaucoup trop, parce qu'on va toucher le dessus de la terre, puis on va se dire, bah, tiens, c'est sec. Puis en fait, dans les 10 cm du fond du pot, c'est trempé de chez trempé, parce que l'eau n'a pas pu s'écouler. Et en fait, les racines baignent vraiment dans cette espèce de boue, et puis la plante va jaunir et mourir. Donc bien déjà commencer par drainer le fond du pot avec des cailloux ou du sable, ou peu importe, quelque chose de drainant. Ensuite, on va mettre notre nerf et planter notre chrysanthème. Et puis là, on pourra vraiment se fier à ce toucher qu'on a, de se dire, ben voilà, la terre est sèche au-dessus, je peux arroser. Donc le chrysanthème, c'est vraiment ça. Il faut toucher, puis dès que c'est sec, il faut arroser. Surtout pas le laisser toujours mouillé, parce qu'il va pourrir.
Donc on n'a pas forcément besoin de planter le doigt dans la terre pour aller voir si c'est humide au fond. On peut juste, avec le drainage, se fier à ce qu'il y a dessus.
Exactement, on va juste gratter un peu le dessus avec le doigt, puis on va tout de suite voir si dessous c'est autant sec que sur le dessus, et ben on peut arroser. Et puis si on voit que c'est encore humide, on laisse comme ça. Et puis on peut aussi se fier un peu à nos instincts, hein, qui sont malheureusement largement perdus au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire de voir la plante comme elle est. Si elle est en pleine forme, et ben c'est qu'elle a encore assez d'eau. Si on voit qu'elle commence de pencher un peu vers le bas ou de se flétrir, et ben c'est qu'elle a soif. Donc on peut aussi se fier à ça.
Et puis comment est-ce qu'on peut protéger ces chrysanthèmes des maladies et des parasites?
C'est pas très facile de le faire, parce que le chrysanthème est facilement envahi par le puceron. Le puceron adore le chrysanthème, donc voilà, si on peut l'utiliser, le chrysanthème, justement le mettre au milieu du jardin potager, et puis se dire, ben, ok, il sert de support pour le puceron plutôt que mes salades, donc là on l'utilisera plutôt comme appât pour le puceron. Et puis si on l'a sur la fenêtre, puis qu'on ne veut pas de puceron sur notre chrysanthème, il faudrait le pulvériser assez régulièrement avec un insecticide à base de pyréthrine, justement, qui vient lui-même du chrysanthème. C'est un peu paradoxal, parce qu'en fait le chrysanthème produit un insecticide, mais qui n'est pas efficace contre le puceron si on ne l'extrait pas. Donc voilà, chercher l'erreur. Et puis sinon, on peut aussi le pulvériser avec du savon noir, ça marche très bien. Et puis, il est aussi très sujet aux maladies. Il y aura le botrytis, l'oïdium. L'oïdium, c'est cette espèce de poudre blanche qu'on peut voir sur les feuilles, qui apparaît sur beaucoup de plantes d'ailleurs. Et puis là, ben, c'est plutôt des traitements préventifs qu'on va faire au cuivre. Et puis, ce qui est important, c'est un petit peu comme l'être humain. Si on soigne bien une plante, qu'on lui apporte ce qu'elle a besoin avec un bon terreau puis de l'engrais régulier, ce sera des plantes qui sont fortes et puis qui ne seront pas sujets à attirer des maladies ou des parasites. Les parasites et les maladies vont toujours sur les plus faibles et les moins en forme. Donc, chez les plantes, c'est vraiment une règle d'or.
Et rapidement, Cathieu, pour terminer sur ce sujet des chrysanthèmes, vu qu'il fleurit maintenant, est-ce qu'il faudra le rentrer plus tard, quand les grands froids vont arriver?
Oui, il est bien rustique. Donc là, maintenant, on peut encore le laisser dehors jusqu'au premier gel. Et puis, si on l'a en pleine terre, il faut vraiment bien le pailler. Il faut l'entourer aussi avec du sapin. Voilà, vraiment le protéger, plutôt le pied, le rabattre, le tailler à 10 cm du sol, qu'il ne soit pas sujet aux intempéries. Et puis, si on a des chrysanthèmes qui sont en pot, vivaces, bien sûr, eh ben, on peut les rentrer à l'intérieur dans une pièce qui est plus ou moins à 10 degrés. Avec de la lumière, très important, on ne peut pas les mettre à la cave. Et puis, on va leur donner de l'eau modérément. Et puis, on les ressortira au printemps. Puis, on les taille aussi, pour pas qu'ils prennent trop d'énergie dans les parties hautes de la plante.
7h, 8h, les jardinières.
Et nous sommes de retour dans les jardinières. D'ici quelques secondes, on va répondre aux questions des auditeurs. Si vous en avez, Brian, comment est-ce qu'on peut nous contacter ?
Alors la première possibilité, c'est par téléphone au 0900 70 20 20. Vous aurez l'occasion de parler en direct avec Katiou. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous nous l'envoyez au 939. Et puis dernière possibilité, un formulaire qui est aussi à votre disposition sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Bon Brian, il faut toujours se lancer pour aider un petit peu les auditeurs à poser leurs questions. Alors moi je me lance, j'ai une question pour vous Katiou. À la maison j'ai un areca, une de ces fameuses plantes qu'on a dans l'appartement. Et puis je suis envahi de petits moucherons qui viennent se loger dans la terre. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser concrètement ?
Alors, vous en débarrassez. Alors, ce qui est bon à savoir déjà, c'est que ces petits moucherons ne font aucun mal à votre plante. Donc, il n'y a pas de souci. Elles sont là plutôt parce que c'est confortable, un peu de terreau, un peu de chaleur. Peut-être vous avez le chauffage au sol, ce qu'elles adorent en plus. Et puis, un peu d'humidité. Alors, elles ne mangent pas les racines, elles ne font rien. Elles sont juste embêtantes parce qu'elles ont un cycle de vie qui est assez court. Et puis, on en retrouve sur le bord des fenêtres, on en retrouve un peu tout partout autour du pot. Puis, ce n'est pas forcément très agréable. Alors, déjà, une chose qui est aussi importante, peut-être, c'est de surélever la plante, la mettre sur un petit support à roulette ou comme ça qu'elle ne touche pas directement le sol, donc ça enlèvera déjà la chaleur, ça réduira un peu l'apparition de ces mouches. Et puis sinon on peut plutôt les faire mourir groupés pour qu'on n'en trouve pas tout partout en mettant des petits pièges à ces petites mouches avec quelque chose de fermenté. Soit on va mettre, par exemple, le bouchon de pète d'une bouteille XY, vous le retournez, vous mettez un peu de bière dedans ou du vinaigre, vous répartissez ça un peu autour de la plante ou même sur la terre, autour du pot. Et puis, ces petites mouches seront attirées et puis iront se grouper là-dedans. C'est un petit cimetière à mouches, quoi. Avec une petite chrysanthème à côté, voilà. Et puis... ça fait l'affaire.
C'est bon, vous allez faire ça, Mike.
Oui, je vais essayer tout à l'heure de faire ces pièges à mouches.
vous nous en direz des nouvelles.
Exactement.
On a une autre question. Katiou, vous nous avez dit en début d'émission que c'était encore le moment de faire quelques récoltes, tant qu'il n'y a pas eu de gel. Et cette question-là, c'est sur de la rhubarbe. Est-ce que c'est le bon moment pour la diviser ? Et si oui, comment faire ? Et sinon, c'est quand le bon moment ?
On est pile poil dedans, donc maintenant c'est vraiment le moment pour diviser la rhubarbe. Il faut la diviser, on ne peut pas diviser une plante qu'on a achetée l'année passée. Il faut qu'elle ait minimum 3 ans, qu'elle ait eu le temps vraiment de faire un beau tronc, entre guillemets, ça ne s'appelle pas un tronc, mais un beau milieu où il y aura beaucoup de bourgeons. On remarquera maintenant que la rhubarbe, elle est fanée, il reste quelques feuilles vertes, des feuilles jaunes, enfin voilà. Donc on va couper tout ça. Au milieu de la rhubarbe, il y a une espèce de noyau avec plusieurs petites boules. Et puis ça sera chaque fois une feuille qui va repousser au printemps. Donc on va déterrer cette rhubarbe avec grand soin. Donc on va faire un trou autour avec une bêche. On va sortir vraiment le plant en faisant attention de ne pas casser trop de racines. Et puis on peut couper avec la bêche cette espèce de gros noyau qui doit faire à peu près 30 cm de diamètre. On pourrait par exemple le couper en deux et reprendre chacune de ces parties pour les replanter. Et quand on les plante, on va faire attention de ne pas planter ça trop profondément. Il faut juste que le haut de ce noyau soit à peine sous la terre, protégée pour le printemps. Et puis, on va vraiment les replanter à minimum 1 mètre de distance pour qu'elles aient bien de la place pour se développer au printemps.
Les jardinières.
Et ce matin, avec vous, Katiou, nous avons parlé des chrysanthèmes, comment les entretenir, quand les planter ou encore comment les protéger. Katiou, il est presque l'heure pour vous de filer au jardin, j'imagine. Mais avant, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement au potager ce week-end ?
Au potager, on peut tout faire. Un peu tailler, un peu récolter, peut-être planter quelques poros encore pour l'hiver. Enfin, faites ce qui bon vous semble et puis profitez du soleil parce que je crois que la semaine prochaine, il faudra rester au coin du feu.
Merci beaucoup, Katiou, pour votre visite et vos conseils. On rappelle que vous êtes jardinière et guide de randonnée nature dans le Jura, à suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de « Rendez-vous avec soi-même ». Bon week-end et à bientôt chez les jardinières.
Merci, bon week-end à vous.
Et la semaine prochaine, c'est Stéphane Caravellas qui sera notre invité. Il est responsable maraîcher dans une micro-ferme biologique à Charmolle. Alors n'attendez pas samedi prochain pour poser vos questions. On les attend par SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question, votre nom et vous l'envoyez au 939. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo via le formulaire disponible sur notre site.
Merci beaucoup Mike. Il est responsable d'une micro-ferme biologique où ?
j'ai effectivement entendu. Bah, je sais pas, dix
fois. À Charmoille dans le Jura, pardon.
Aïe, le bêtisier.
On vous embête, bien sûr. Charmoille dans le Jura avec Stéphane Carvelas. Bon week-end, Mike.
Bon week-end, Brian, et bon week-end à toutes et à tous. Merci, Katiou.
7h, 8h, les jardinières.